Dans le cadre du Arras Film Festival, nous avons assisté à un atelier de bruitage-doublage à l'Université d'Artois à Arras avec Jean-Carl Feldis, magicien du son. Dans sa valise des tas d'objets, du bec de flûte au sac plastique en passant par de vieilles bobines, nous avons manipulé, joué, couru, crié, tout était bon à prendre pour faire du son. Rencontre avec Jean-Carl Feldis.
À la base, moi je suis musicien, je suis compositeur, donc j'ai commencé la musique assez tardivement, ado. J'ai fait le centre d'information musicale de la ville de Paris, qui était une école un peu de jazz. Et surtout, j'ai une vie de groupe, moi. J'ai eu mes groupes, on a fait des tournées, des albums à l'étranger, la vie de groupe, les galères de groupe, quoi. Puis après, j'ai bossé un petit peu pour l'image. J'ai bossé pour la télévision, pour le théâtre aussi, en tant que compositeur. Et à partir de là, je suis devenu un peu bruiteur. Alors pareil, il n'y a pas d'école de bruitage dans le monde. Donc j'ai eu la chance de voir travailler un peu des bruiteurs, Nicolas Becker, entre autres. J'en ai vu d'autres aussi. Et voilà, avec le temps, comme ça, je suis devenu aussi bruiteur.
Il n'y a pas d'école pour devenir bruiteur ou doubleur. Comment on fait alors pour faire ce métier?
Tu as des écoles de cinéma, bien sûr. Alors, c'est un peu plus technique, tu vois. Ils vont aborder la réalisation ou même l'écriture, ça peut être pas mal. Tu as des écoles de son, ingénieur du son, la prise de son, preneur de son. Tu peux être en studio, en live, ça dépend. Et ben, le bruitage, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en général, on te prend un peu sous ton aile. Il y a un bruiteur, tu essayes, et puis au début, tu fais les cafés. C'est pas une légende. Tu l'assistes, et puis un jour, voilà, il te forme, et puis après, tu deviens bruiteur.
Des claquements de langue, de doigts et des bruits de sachets plastiques, ça donne de la pluie. Alors là, tu as passé toute la journée à faire des ateliers. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le contenu de ces ateliers, ce que tu fais dans ces ateliers ?
L'idée, quand j'ai mis en place cet atelier-là, moi je l'ai écrit presque comme un spectacle, hein, parce que des fois je le fais devant plein de monde. Moi je voulais un peu ouvrir les oreilles aux gens, tu vois, que ce soit aux enfants, aux adultes, aux ados, on s'en fiche un peu. En fait, pour faire simple, j'amène des extraits de films, plus ou moins connus, des extraits assez courts, parce que quand c'est trop long, c'est trop galère à sonoriser. Et j'ai enlevé les sons, donc je simule des extraits de films muets, ça devient des films muets, pas forcément noir et blanc, où il n'y a pas de son. Et en fait, c'est le public qui sonorise complètement l'extrait. Donc je fais de la prise de son, ils voient mon logiciel de montage, et puis je fais même des castings dans la salle, quand j'ai besoin d'une voix, ou de, je sais pas, un animal, un truc un peu étrange. Il y a quatre grandes familles de sons dans un film. Tu as ce qu'on appelle les musiques, bien sûr, la musique, ça c'est important. Il y a les voix, tout le travail des voix, les bruitages et ce qu'on appelle les sons d'ambiance. Ça va être plein de sons en même temps, une pluie, une ville, une foule qui crie. Et comme ça, ils voient les sons et toute la magie du bruitage aussi, parce qu'on arrive à un résultat, ça c'est clair.
Tu repères des voix spécifiques, comment tu fais quand les gens te parlent comme ça? Tu es très sensible au son, tu te dis ok, cette voix-là, elle va caler sur tel ou tel personnage?
Et ben, vu que moi je travaille pas mal sur des films d'animation, pas que, mais de fiction aussi, mais j'aime bien les films d'animation parce que pour moi c'est les films muets modernes d'aujourd'hui. En fait, les gens, tu vois, on voit il y a un dessin animé, que ce soit en volume, en pâte, on s'en fiche, ben il n'y a pas de son. C'est vraiment concret, je trouve, pour le public. Et après, on fait tous les sons. Quand tu prends un film de fiction, quelquefois on garde le son quand même. Heureusement, tu vois, on va garder les voix, mais ça dépend. Il y a des gros blockbusters, on refait tout en post-production. Tout. Parce que les vaisseaux spatiaux, ça n'existe pas. Il y a des références comme ça sonores, on a l'impression de les connaître, mais ça n'existe pas, quoi. Donc oui, des fois, des voix, ça c'est plutôt chouette.
C'est important aussi de sensibiliser à ces métiers-là, peut-être à ces métiers d'ombre du cinéma.
Oui, je pense que c'est important. Après, il ne faut pas perdre la magie. Tu vois, quand on regarde un film, il ne faut surtout pas l'analyser, c'est horrible. Mais surtout, moi je me dis que plus ils seront critiques, plus le public sera critique avec le cinéma, que ce soit avec le son ou l'image, bah, meilleur les films seront. Mais peut-être je rêve de penser ça, mais je le crois.
Est-ce que tu as une astuce à nous donner pour bien poser sa voix, pour bien la travailler?
Oh bah non, parce que moi je suis pas chanteur, comme tu vois déjà j'ai une voix assez abîmée et une grosse voix. Bah après quand on est comédien ou chanteur, moi j'ai travaillé avec des chanteuses hein, pendant des années, c'est une hygiène de vie, hein, y a pas de miracle.
Avec Jean-Carl, on a parlé de voix mais aussi de bruitage. Pendant l'atelier, nous avons pu découvrir de nombreux objets étonnants. On vous propose d'écouter et de tenter peut-être de deviner l'objet utilisé pour ces sons. Rendez-vous en fin de reportage pour la réponse.
Là, j'ai venu avec une valise avec pas mal d'objets, j'ai plein de petites valises aussi, et, parce qu'après il y a ce qu'on appelle le sound design. En fait le sound design ça serait plus des sons maintenant qu'on connaît, j'ai envie de te dire, mais les monstres ça n'existe pas, tu vois des grosses voix de monstres, une soucoupe qui passe, ben, c'est abstrait, maintenant on est habitué si tu veux, depuis les années 50 on entend des vaisseaux dans les films, mais à la base voilà, comme moi je suis un peu plus ce qu'on appelle les bruiteurs à valise, c'est-à-dire qu'on reproduisait des sons qu'on connaît.
Petite question encore sur le bruitage, est-ce qu'il y a une certaine musicalité? Est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine musicalité dans le bruitage?
Ah bah moi oui, moi j'y tiens en tout cas. Et c'est peut-être aussi parce que je suis musicien. Déjà mes groupes, quand je faisais de la musique en live, on n'avait pas d'image. Hein. Et la musique a déjà ce pouvoir-là, de nous raconter des histoires. Là, j'ai jamais besoin d'image la musique. Mais déjà on faisait des bruits sur nos instruments. Moi je faisais des bruits, de la musique improvisée. Peut-être demain, je vais voir, je vais amener aussi une guitare électrique. Où justement je vais leur montrer comment on fait sonner une guitare autrement qu'une guitare. Avec des objets du quotidien, un téléphone portable, ça peut être une radio justement, des baguettes chinoises. Et ça fait des sons un peu étranges.
Alors je vais parler un petit peu actu. Cette année, il y a eu des grèves dans le monde du cinéma, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te fait peur? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu appréhendes un peu ces nouvelles technologies?
Il y a toujours un décalage entre le moment où on crée quelque chose, au moment où on s'en sert, et le recul qu'on a. Je pense que c'est lié à l'humanité, ça. Mais alors peur, moi, pas vraiment. Alors oui, il y a déjà de la musique faite par l'intelligence artificielle. Ça peut très bien marcher. Je sais que les scénaristes se questionnent. Là, justement, la semaine dernière, j'étais dans un festival lié aux voix. Et il y a eu des conférences sur ça, parce qu'il paraît que c'est assez étonnant maintenant. Hein. Vraiment, tu peux avoir toutes les voix que tu veux, même les émotions, les intonations, les onomatopées. Ça, bon, je comprends que les comédiens s'inquiètent un peu, je comprends que les scénaristes aussi s'inquiètent un peu. Moi, je ne m'inquiète pas plus que ça, parce que je fais beaucoup de spectacles vivants, moi. C'est ce que j'aime. Donc avant d'être remplacé par une intelligence artificielle en spectacle live, j'ai du temps. Ça, j'ai du temps. En studio, peut-être qu'il faut s'inquiéter un peu, ouais.
Nous étions avec Jean-Carl Feldis, doubleur, bruiteur et musicien dans le cadre d'un atelier à l'Université d'Artois à Arras. Tout au long de la séance, nous avons pu expérimenter la magie du son grâce à nos voix, nos corps, mais aussi grâce aux objets. Et nous avons même recréé les sons d'une scène presque romantique. On vous fait écouter. Et au fait, les objets à deviner pour les sons que vous avez écoutés pendant ce reportage, c'était des entonnoirs pour les sabots de cheval et un petit balai en paille ainsi que des pommes de pin pour le crépitement du feu.
Rien qu'un balai en paille, ça pourrait suffire. Je ne gratte pas la partie haute, vous voyez, ça ne marche pas. Je gratte ici, la partie qui est serrée comme ça, et en me concentrant, hein, sinon la magie ne marche pas. Et vous allez voir, ça crépite, rien que ça, ça crépite. Je peux le faire fort, un peu moins fort, vous voyez. Et de l'autre main, j'avais pris mes deux pommes de pin. Avec ça, dans un film muet, j'imiterais plutôt le bruitage d'un feu de cheminée. J'en prends deux ou trois et je les écrase très lentement l'une contre l'autre. Vous allez voir, c'est subtil. C'était bien ou pas? Ça marchait? Vous l'avez entendu ou pas? Alors, dans ma tête, j'ai compté trois. Vu que je suis gaucher, j'ai fait un coup à gauche, vous voyez? Avec des noix de coco vides, ça marche aussi. Hein. Une fois à gauche, une fois à droite, et encore à gauche. Je compte trois. Un, deux, trois. J'ai commencé doucement, et je me rapproche du micro. Je les vois, ils sont comme ça. C'est plus facile d'avoir ça dans ma valise qu'un cheval, quoi. Logique ou pas logique?
Logique.
On est d'accord. Bon, c'est un peu de la magie tout ça, non?